Bonsoir tout le monde. Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai rien écrit. J'ai quelques points sur un bloc-notes que j'ai écrit là 20 minutes avant que ça commence. Je vais essayer de m'y tenir. On va voir. Alors du coup, je suis allé à Auch il y a 2 semaines pour le séminaire avec Pierre Kranga, que vous connaissez pour la plupart tous. D'ailleurs, il vous embrasse tous bien fort. Il m'a dit, pour reprendre ses mots, que vous lui manquez. Donc voilà, vous avez son bonjour. Je vais revenir un petit peu sur ce que j'attendais pour ce séminaire. Alors moi, Olivia m'a dit, faut que tu viennes, c'est une semaine pour changer ta vie. Je fais, bon, bah oui, d'accord. D'accord, je viens. Donc j'y suis allé. J'ai été logé chez chez AMCA, ils ont une coloc pour les garçons et une pour les filles. Bon, moi j'étais logé chez les garçons. J'ai été super bien accueilli, oui, en toute logique, vous allez me dire. J'ai été super bien accueilli. Et ce que j'attendais pour cette semaine, du coup, je me suis dit, ça parle de l'amour du Père. Pierre Kranga aime beaucoup ce sujet. Je me suis dit, moi j'attends l'amour du Père. Donc voilà, c'était mon attente principale. Je me suis dit, ça se trouve, je vais pouvoir ressentir quelque chose. Parce que niveau Saint-Esprit, moi, peut-être que je pensais que j'étais fâché avec le Saint-Esprit. Parce que je ne ressens rien. Concrètement, je n'ai pas de vision, je ne parle pas en langue, j'ai jamais eu d'expression du Saint-Esprit. Donc pour un charismatique, ça la fout mal. C'est dommage. Mais c'est comme ça. Mais je vais y revenir, je vais mettre ça de côté, je vais y revenir. Parce que mon premier point, c'est ce que j'attendais, mon dernier point, c'est ce que j'ai eu. Donc voilà, mais d'abord, il y a plusieurs autres étapes. Donc je vais vous parler, je ne vais pas vous résumer tout le séminaire, parce que c'est 35 heures de séminaire. Il est 25, on va dire que j'ai à peu près 30 minutes pour vous résumer tout ça. Bon, 35 heures, ça ne se résume pas comme ça. Mais je vais quand même vous faire mon possible pour résumer à peu près les grands points. Donc le premier jour, Pierre Kranga nous a parlé de notre relation avec notre Père terrestre, qui est super important, pour simplement parce que on va copier un petit peu la relation de notre Père terrestre avec celui de notre Père céleste. C'est logique, hein, parce que quand on est psy, on est un peu... le Père, c'est le modèle. Et donc... Il y a plusieurs points que j'aimerais aborder. Nous, ce qu'on a vu, ce dont il a beaucoup parlé au début, pendant la première matinée, c'est un mauvais père, ça éloigne de Dieu. Un père violent, un mauvais père, ça, on se dit que Dieu doit être pareil. En tout cas, selon ses recherches, les plus grandes figures de l'athéisme ont toutes eu des pères vraiment affreux. Je pense à Freud notamment, bon, je ne vais pas résumer ce qui lui est arrivé, mais il a eu un très mauvais père, et du coup, on a tendance à calquer ce que Dieu est avec notre père à nous. Donc par exemple, un père qui est très strict, on va forcément un peu intérioriser ça et se dire que Dieu doit être pareil. Puisque comment, lorsqu'on demande à un athée de nous décrire Dieu, il va souvent nous décrire le père ou la mère, une figure parentale. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Et du coup, un petit point que j'aime bien, Pierre Kranga nous a dit, et si vous croyez en Dieu, c'est bien, mais le diable fait pareil. Donc vous êtes peut-être monothéiste, vous croyez en Dieu parce que c'est ce qu'on vous a appris, mais maintenant il faut l'aimer. Parce que le Saint-Esprit va me guider. Amen. Donc oui, l'amour qu'on... Après, Il nous a dit donc, je vais revenir sur ce qu'il nous a dit, donc maintenant, pour que vous puissiez avoir une vraie relation avec le Père Céleste, vous allez devoir vous séparer de votre Père Terrestre. Donc il nous a fait faire un exercice. On a mis nos deux mains, moi je ne peux pas le faire, on avait nos deux mains comme ça. Dans votre main droite, il y a le Père Céleste, dans la gauche, il y a le Père Terrestre. Visualisez-les bien. Maintenant, vous allez les séparer lentement. Et moi, ce genre d'exercice, à chaque fois, je me dis, mais c'est débile, j'aime pas ça, c'est nul. Et bah, j'ai fondu en larmes. Parce que, si j'ai fondu en larmes, c'est pas pour rien, parce que c'était le point qu'il allait aborder après, mais moi, du coup, j'ai un peu préfiguré ce point-là. Avoir un bon père, ça peut être encore un plus grand frein pour l'amour du père. Parce que moi, Romain, très bon papa, maman, très bonne maman, on n'oublie pas. Je me suis dit, mince, ça veut dire que je dois séparer les deux, mettre le Père Céleste au-dessus de mon père, et je me suis rendu compte, mais j'y arrive pas. Du coup, j'ai fondu en larmes, Pierre est venu me voir, j'étais pas le seul d'ailleurs, il est venu me voir et lui pensait que j'avais eu un mauvais père, et je lui dis, bah non, c'est tout l'inverse. Et il me dit, ah bah c'est très bien, c'est le point suivant. Et il me dit, mais du coup, pourquoi est-ce que tu as mis ton père en premier? Je lui dis, c'est parce que je l'ai idéalisé. Ni, t'as pas un autre mot? Là, je fais, ah mince, il va me le faire dire, je l'ai idolâtré. Et c'est un point super important, parce que oui, j'ai idolâtré mon père, parce que pendant longtemps, je n'ai pas vu ses défauts, pendant longtemps, je n'ai pas remis en question son éducation ou quoi que ce soit même. Et du coup, c'est le suivant, enfin c'est le point suivant, en fait, l'idolâtrie va nous empêcher d'être avec Dieu. Et comme il l'a dit lui-même, le cœur humain est une fabrique à idoles. Vous en avez tous dans votre poche, si je ne m'abuse. Pas de cœur, hein, mais d'idoles. Parce que oui, aussi il avait dit un point intéressant, on devient ce que l'on idolâtre. Et c'est pour ça qu'il faut chercher à mettre le Père en premier, c'est pour être comme le Père, être comme Dieu. Parce que être comme notre idole, en l'occurrence c'était mon papa, et ben je vais devenir comme lui. Vous allez me dire, c'est peut-être pas si mal. Alors oui, mais mon père n'est pas Dieu, et nous on est appelés à être comme Dieu, on est appelés à lui ressembler. Et si je ressemble plus à mon père qu'à Dieu, au final j'ai pas gagné dans l'histoire. Enfin, pas gagné. C'est pas une histoire de combat où on gagne ou on perd, évidemment. Mais voilà, c'était le point suivant, c'était un peu le point du premier jour, notre relation avec notre Père Terrestre. J'ai peut-être oublié quelques détails, mais vous avez l'idée. Au deuxième jour, on a parlé du légalisme. Et ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, parce que vous le savez peut-être, mais je suis très, très religieux. Enfin, ou du moins, je l'ai été. Pour moi, c'était les règles, on ne dépasse pas, on ne sort pas du cadre. Et donc, il a parlé un petit peu des pharisiens et de leurs tocs. Et là, je fais, attends, comment ça, des tocs? Eh, mais moi, j'en ai eu des tocs, j'ai souffert de ça pendant des années, de troubles obsessionnels compulsifs. Et là, il me dit, par exemple, vous voyez, enfin, il dit à tout le monde, vous voyez, par exemple, un pharisien, il va voir que quelqu'un a fait quelque chose que selon la loi qui était interdit selon la loi de Moïse, hop, elle est impure. Mais le pharisien, il rajoute des lois. Donc là, hop, la personne à côté, vous êtes un peu trop proche. Nathalie, tu touches la veste de la personne impure, t'es impure aussi. Nazario, tu touches l'ombre de la chaise de Jeanne, t'es impure aussi. Jeanne aussi, du coup, vu que c'était sa femme. Et ça peut aller très loin comme ça. Et en fait, c'est des tocs. Et je me suis dit, mais c'est dingue, j'étais exactement pareil. Mais dans ma tête, c'était limite ça, hein. C'est une forteresse de pensée qu'il faut détruire parce qu'elle est, elle est aliénante. Et en fait, elle est un peu confortable en même temps. C'est ça le piège. Parce que quand tu te dis que tu es dans la loi, tu te dis « j'ai reçu ma punition pour les mauvaises choses que j'ai faites ». Je ne sais pas comment ça se passe dans le cerveau à ce niveau-là, mais quelqu'un qui est dans la culpabilité, c'est ma théorie personnelle, il va se rassurer tout seul en se disant j'ai ma punition en faisant le toc, j'ai ma punition en faisant moi-même et je me justifie moi-même. Mais c'est faux, vous le savez. Et j'ouvre le livre. Je regarde au cas où, il me semble que j'avais quelque chose à dire dessus. J'ai pris beaucoup de notes. Une phrase importante qu'il a dit, c'est « On ne devrait rien faire pour être aimé, mais tout faire parce qu'on est aimé. » C'est un joli chiasme. C'est une figure de style. Bien sûr, on ne devrait rien faire pour être aimé, mais on devrait tout faire parce qu'on est aimé. Amen. On est d'accord. Voilà, phrase importante. J'arrive. Vous pouvez en discuter entre vous en attendant. Donc, le troisième jour, on a vu quelques points. Ah oui, un truc important que je voulais dire. J'ai fait beaucoup de rencontres pendant ces semaines et au moment où, où j'ai parlé justement de mon idolâtrie, il y a une femme qui est venue me voir. Elle m'a dit, j'ai vécu exactement pareil. Et donc, les personnes ont été vraiment très bien placées cette semaine-là. Toutes les personnes qui étaient au séminaire ont été utiles à d'autres, de certaines manières. Vraiment, les pions sont placés sur le plateau de jeu de manière très efficace, si je peux utiliser cette métaphore. Ensuite, le troisième jour. En effet, il est ressuscité. Mais là, je parle du 18 février 2026. On a parlé des mentalités et on a commencé à parler de Luc 15. Je vais venir sur Luc 15 juste après. On a parlé des trois mentalités, celle de l'orphelin, de l'esclave et du mercenaire, qui sont trois personnalités qui nous empêchent aussi un petit peu d'être dépendants de l'amour du Père. Donc je vais surtout vous parler de l'esprit de l'esclavage et du mercenaire, parce qu'en fait, j'ai rien noté sur celui de l'orphelin. J'ai pas eu le temps. Il y a trop de trucs. Donc, si je me réfère à mes notes, la mentalité de l'esclavage, c'est quelqu'un qui ne veut pas sortir de l'esclavage, qui ne veut pas prendre de décision, qui ne veut pas faire changer les choses, parce que c'est plus facile de rester... de rester dans un statu quo permanent et de ne pas avancer, c'est confortable. Et c'est pour ça que ça peut nous empêcher d'avancer, nous. Attendez. Non, parce que moi aussi j'ai des trous de mémoire. Et j'ai des défauts. Ça peut nous empêcher d'avancer, vous savez bien pourquoi. Le confort, ça nous empêche d'avancer. En fait, je me rends compte que ce point, en fait, j'ai déjà tout dit. J'avais peut-être fait une synthèse, je ne me rappelle plus du contexte de quand j'ai noté. Bon, écoutez, j'aurais définitivement dû prendre des notes. On va passer à Luc 15. Luc 15 qui est... alors, est-ce que vous savez ce que c'est Luc 15? Pardon? D'accord. On va faire un petit jeu que Pierre nous a fait faire. Vous allez voir, c'est rigolo. Il y a combien de paraboles dans Luc 15? Vous me montrez avec vos doigts. Montrez-moi. Ok, je vois des trois. Et vous avez combien de dieux? Ça, c'est moi qui l'ai rajouté, vous avez combien de dieux? Parce que c'est ça. En fait, les trois paraboles de Luc 15 n'en sont qu'une seule, parce qu'elle parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, chacune différemment. Et ça, on n'était que trois à l'avoir trouvé. Votre serviteur l'a trouvé, évidemment. Non. Gardez-vous bien de le faire. Et je vais revenir un petit peu dessus. Donc la seule parabole, celle qui parle du Fils, elle parle du berger qui va chercher la brebis. Il va lui-même... chercher la brebis égarée sur les 99 autres, c'est le fils. Celle de la femme qui perd, alors je ne sais plus c'est quoi la valeur de la pièce, la drachme, oui. Alors ça, oui. Louis II, 21, excusez-moi, je n'ai pas le terme de la drachme dans ma Bible. Alors du coup, elle en perd une, et la femme illumine toute la pièce et nettoie la pièce pour trouver la drachme. C'est le Saint-Esprit. Notez bien que Jésus a lui-même utilisé dans cette parabole une femme pour décrire le Saint-Esprit. Et la troisième, c'est celle du Père, évidemment, parce que c'est le Père qui attend que le Fils revienne. Et je vais un petit peu développer, parce qu'il y a plein de points super intéressants dans cette troisième parabole, c'est la plus longue, vous le savez. Mmh. Je cherche un point intéressant à noter. Dans Luc 15, il y a les deux fils, vous le savez. Et Pierre a revenu sur le fait qu'on avait tous un petit peu la mentalité des deux fils. On a le fils cadet qui va pécher, qui va revenir et qui se disqualifie en disant de lui-même, je vais revenir et je vais dire à mon père, considère-moi comme l'un de tes serviteurs, j'ai péché contre toi, je ne suis plus digne. Et ensuite, il y a l'aîné. Alors l'aîné représente les pharisiens dans la parabole, mais on a tous un petit côté pharisien. Vous verrez. Et le fils aîné, lui, se disqualifie justement parce qu'il pense qu'il est trop bien. Et il en veut, vous le savez, il en veut au cadet d'avoir reçu la grâce alors que lui a fait des efforts. Sauf que ce n'est pas nos efforts qui nous sauvent. Et donc voilà, il faut noter que les deux se disqualifient d'une façon différente, c'est aussi pour montrer que nous aussi, on peut réfléchir comme ça. J'ai noté des trucs, l'importance des mots en grec, j'ai noté des descriptions, mais je ne vais pas vous les faire, ce serait trop long. Il y a plein de choses très intéressantes. Hein. Si vous avez l'occasion de faire ce séminaire avec Pierre Kranga, faites-le parce que ça apprend tellement de choses. Et c'est une parabole tellement riche. Il nous a bien précisé qu'il n'a pas pu parler de tout dans cette parabole parce que c'est trop long. Une semaine n'a pas suffi. Alors que c'est un chapitre, 20 versets, 21, un truc comme ça. Bon, vraiment. J'aimerais aussi quelque chose qui m'a un peu marqué. Au moment où le fils cadet revient à la maison de son père, le père court vers lui et quelque part le protège. Il le katéphileo dans le terme grec. Oui, je reviens un peu sur le terme grec. Katéphileo, c'est vraiment, on le couvre de bisous, c'est limite un peu sale. Enfin, parce qu'en plus, il y a les larmes et il y a le fils qui revient d'un champ de porc. Il ne doit pas sentir très bon. Et en fait, s'il fait ça, il y a aussi une raison. C'est parce que selon la loi juive, quelqu'un qui a dépensé tout de l'argent, enfin, quelqu'un qui a été dans la débauche, doit être lapidé. C'est dans la loi de Moïse. Et en fait, si le père revient vite vers lui, il court vers lui pour aller le katéphileo, c'est pour le protéger de la loi. Parce que sinon, il aurait été lapidé. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a protégés de la loi. Et cette métaphore, enfin cette parabole, est super bien choisie. Il y a d'autres choses comme ça, mais moi, c'est peut-être ce qui m'a le plus marqué. Parce que c'est quelque chose que je n'avais pas remarqué au préalable. En parlant du pardon, l'exercice qu'on a fait après avec Pierre Kranga, alors, j'ai peut-être des droits d'auteur sur cet exercice. Non, peut-être pas. Je lui ai demandé si je pouvais reprendre quelques éléments. Je ne sais plus ce qu'il m'a dit. Enfin bref, il a dit, on va faire un exercice. Il s'est mis au milieu de nous, parce qu'on a beaucoup parlé aussi des gens qui nous ont offensés ce jour-là. Et il a dit, maintenant, je vais prendre la place de toutes les personnes qui vous ont offensés, qui vous ont fait du mal, de quelque façon que ce soit. Considérez-moi comme eux. Il s'est mis à genoux et il a présenté ses excuses. Il a dit, maintenant, mettez-vous autour de moi. Tendez votre bras comme ça, comme au Colisée, à Rome. Si vous voulez me pardonner, vous faites comme ça. Vous savez, c'est le signe universel, on le laisse. Mais si vous ne voulez pas me pardonner, que vous voulez me faire exécuter, vous faites comme ça. Mais gardez à l'esprit que si vous faites ça, les gens que vous avez offensés pourront aussi le faire. Alors, bah, moi, je ne me suis pas trop posé la question, parce que j'avais déjà travaillé dessus, j'ai déjà pardonné. Là, je me dis, ouais, il est bien, encore une fois, cet exercice, c'est bien, mais bon, moi, ça ne me concerne pas. Qu'est-ce que j'ai pas dit ? Et là, je dis, et là, peut-être c'est le Saint-Esprit qui me l'a dit, et toi ? Chose très importante, et toi, est-ce que tu t'es pardonné ? À toi-même. Et là, je fais, ah ! Est-ce que je me suis pardonné ? Ben, je ne sais pas. Je demande à Pierre, et du coup, est-ce que ça nous concerne aussi nous ? Il fait, ça vous concerne surtout, vous ? Est-ce que vous vous êtes pardonné à vous-même parce que c'est aussi un gros blocage ? Parce qu'on peut se condamner soi-même, c'est ce que le cadet a fait, c'est ce que l'aîné a fait. Ils se sont disqualifiés tous les deux. Alors voilà, j'ai dû travailler et je me suis dit, ah ok, bah, je décide de me pardonner. C'est pas si facile. Entre prendre la décision et le faire, alors papa n'était pas d'accord avec ça, lorsque j'en ai parlé. Mais entre prendre la décision et le faire, il y a un gros chemin. Parce que je peux dire que je te pardonne, mais je peux garder encore de la rancœur. Il faut le temps qu'elle s'apaise. Et Dieu va m'aider. Amen. Je suis bien. Ensuite, je passe direct à vendredi, le cinquième jour, parce que j'ai mal étalé la chronologie. On va parler d'un traumatisme. Pierre nous a dit que pour recevoir l'amour du Père, que l'amour du Père va nous combler, mais que pour ça, il faut d'abord se régler ses propres traumatismes, parce qu'un traumatisme, il a pris l'exemple d'un verre. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas de verre. Un verre en carton, il a découpé le fond, et il a dit, maintenant, quand l'amour y passe, bah, il sort. Vous recevez l'amour, mais vous le recevez pas, parce que vous n'avez pas encore réparé la chose. Et moi, je me suis dit, mais je n'ai pas de traumatisme, alors pourquoi je ne reçois pas l'amour du Père ? Et du coup, je réfléchis. Qu'est-ce qui pourrait être un traumatisme chez moi ? Qu'est-ce qui m'empêche d'être vraiment pleinement dans l'amour du Père ? Et là, je repense à moi, quand j'étais petit, j'étais dans la louange, j'étais vraiment dedans. Aujourd'hui, je ne suis plus dedans. Quand il y a la louange, j'ai d'autres pensées, je ne suis pas dedans, je pense à autre chose. J'arrive pas, même quand je chante, je me dis, ben, je chante, mais je ne suis pas dedans. Et je me rappelle de quand j'étais petit, j'étais dedans, mais comment je faisais ? En fait, je me moquais du regard des autres. C'était mon moment de louange. Et ben, c'est plus le cas aujourd'hui, parce qu'en fait, je me suis dit, ah oui, mais c'est vrai que j'ai un peu peur du regard des autres. Et en fait, c'est à cause d'un traumatisme que j'ai trop sous-estimé, que j'ai même négligé. Je me suis même dit que ce n'était pas un traumatisme. Je vais vous expliquer ce que c'est. Certains d'entre vous le savent, je suis autiste Asperger. Et quand j'étais petit, je le fais encore aujourd'hui, j'ai fait ce qu'on appelle du flapping. Donc peut-être vous avez déjà vu des autistes faire des mouvements un petit peu bizarres ou faire des bruits avec leur bouche. C'est ça le flapping. Et quand j'étais petit, je le faisais sans me soucier du regard des autres, mais du coup, on s'est moqué de moi. Même des adultes se sont moqués de moi. Et je pense que ça m'a vraiment beaucoup marqué, parce que je me suis dit, ok, mais c'est pas un traumatisme ça, c'est juste des gens qui se sont moqués, ça m'a blessé, c'est tout, c'est pas un traumatisme. Et là, je me suis dit, ok Maxime, si c'est pas un traumatisme, bah, t'as qu'à refaire du flapping là en public. Et là, les larmes m'ont monté, je fais, non, je peux pas, c'est pas possible, c'était extrêmement dur, ça me serrait la gorge, je fais, non, surtout pas. Donc je me dis, ok, si, il y a peut-être un truc à régler à ce niveau-là. Du coup, j'en parle à Pierre. Et là, qu'est-ce qu'il me dit pas, Pierre ? Il me dit, d'accord, mais est-ce que tu voudrais pas qu'on en parle à tout le monde ? Dans ma tête, c'est, bah non, bien sûr que non, je veux pas en parler. Et du coup, je fais, oui, on va en parler à tout le monde. Il fait, t'es sûr ? Oui, je sais qu'il faut le faire. La tête me dit, non, je veux pas le faire, mais je sais qu'il faut le faire parce que il faut se libérer. Alors, qu'est-ce qu'il fait pas encore le Pierre ? Il dit, bah, vas-y, viens devant, là. Il parle un petit peu, il révèle mon secret. Vous savez qu'il est autiste, lui ? Il le cache bien, hein ? Mais c'est pas bien. Parce que il a deviné que j'ai tellement tout renfermé en moi, parce que le flapping, je le fais plus en public. En même temps, ce n'est pas très correct pour un adulte. Il faut savoir le contenir, mais il faut aussi savoir se passer du regard des autres. Et du coup, j'ai tellement tout renfermé en moi que, selon Pierre, ça m'empêche aussi d'être pleinement avec l'amour de Dieu parce que je suis tout le temps sur la défensive. Je suis tout le temps en surveillance. Qui est-ce qui me regarde? Et ça, c'est aussi dans la vie de tous les jours. Hein. Qui me regarde? Qui peut encore me juger là, si je fais un geste que je ne contrôle pas? Parce que ça arrive quand je suis trop dans mes pensées, ça arrive qu'il y ait un peu de flapping qui s'échappe. J'ai plus le temps. Non mais... D'accord, je rends le micro. Tu me dis. Non, non. Ah ouais, ça a l'air sincère. Non, je rigole. Non, non. Alors du coup, il demande à tout le monde de demander pardon pour tous ces gens qui se sont moqués de moi. Et du coup, bah, moi, j'ai fondu en larmes. J'ai pleuré. J'ai pleuré, mais avec une respiration saccadée. Je fais, non, j'ai trop de choses, trop de choses. Il y a un gars, des garçons qui m'a pris dans ses bras. J'étais à bout. J'étais complètement à bout. Et du coup, Pierre m'a demandé, est-ce que tu peux faire du flapping? Là, non, ça ne marche pas comme ça. Alors, ce n'est pas que je ne veux pas. C'est que vraiment, il faut que je sois dans un état mental différent. Je ne peux pas. Là, par exemple, je ne pourrais pas. Parce que je ne suis pas dedans. C'est aussi c'est un état d'autiste un peu spécial. Vous ne pouvez pas comprendre. Et donc, après avoir bien pleuré, on est passé à la partie la plus importante, et je suis désolé Alain, mais avant de passer à la partie la plus importante, je vais devoir revenir à lundi. Lundi, j'ai fait une rencontre, j'ai rencontré Monsieur G. Je veux un peu protéger son anonymat, du coup je vais l'appeler Monsieur G. Monsieur G est autiste, et je l'ai direct vu. Il faut savoir que moi, du coup, à cause de tout ce que j'ai vécu, j'ai toujours fui les autistes, parce qu'ils me mettent dans l'inconfort socialement, parce que je dois le dire, je les aime pas. Je suis désolé. C'est comme ça. Enfin, c'est comme ça. C'était comme ça. Donc je vois qu'il est autiste, je me dis, ok, lui, je le traîne pas avec lui. Monsieur G, tu restes loin. Le soir, il vient manger avec nous. Il s'assoit à côté de moi et là, dans mon cœur, je ressens quelque chose. Je pense que c'était de la compassion. J'ai encore un peu du mal à le définir. Mais vraiment, j'ai de la peine pour lui. Je dis, il est tout seul, comme tous les autistes, il mange tout seul. Il parle pas beaucoup, il a ses mimiques bizarres et moi je suis rempli de compassion. Je pense que je peux le dire comme ça. Le troisième jour, au moment, alors j'ai parlé un petit peu avec lui au fil de la semaine. Quand même, on n'est pas des sauvages, on va lui parler un petit peu. Et au moment de faire l'exercice, s'il faut pardonner ou pas, lui il a pas réussi à le faire. Il a dit à haute voix, c'est trop dur, je ne peux pas pardonner. Et après, il y a eu une pause, et pendant la pause, personne n'est venu lui parler. Je fais, ben, allez, je vais lui parler. Il m'a fait part de sa reconnaissance, il m'a dit merci d'être venu me parler, parce que t'es le seul qui vient me parler. Et je dis, mais c'est vrai ça, mais ils font quoi le staff? Ils font quoi les MC? Il fait quoi Pierre? Bon, Pierre, il n'avait pas entendu, parce que Pierre a des problèmes d'audition, il ne l'avait pas entendu. Et du coup, je ne sais plus exactement ce que je lui ai dit, mais j'ai essayé de le convaincre. Enfin, non. Je pense que j'ai simplement laissé l'esprit parler. Je ne me souviens plus vraiment de ce que j'ai dit, mais le fait est qu'il a fondu en larmes sur moi. Il a dit c'est vraiment trop dur, mais je l'ai laissé ce soir-là. Et le lendemain, il vient vers moi tout fier, il me dit « J'ai réussi, j'ai pardonné ». Et du coup, bah, j'étais content pour lui, en toute logique. Arrivé vendredi, il vient me voir et il me dit « Tu sais, Maxime, si tu n'avais pas pleuré le premier jour, je serais parti. Et si tu n'étais pas venu me voir mercredi soir, je serais parti. » Et du coup, je fais « Ah ouais, et tout, tu serais parti. » Mais pourquoi? Parce que ça, je ne trouvais pas ça intéressant. Mais le fait que tu aies pleuré, je me suis dit… Alors, il me l'a dit avec une expression un peu rigolote, que je ne vais pas redire, que c'est un peu vulgaire. Il me dit, wow, t'as des balls d'avoir pleuré devant tout le monde quand même. Je vous l'ai dit, hein, on est sans filtre, nous. Et je me suis rappelé aussi, mercredi soir aussi, je me suis dit, les MC ne sont pas venus lui parler, le staff n'est pas venu lui parler, mais je pense que c'était à moi de le faire, parce que à ce moment-là, il était en colère, et il avait justement ces mimiques d'autiste qui sont sujets à moquerie. Sauf que moi, je ne me suis pas moqué de lui, je fais « Ah oui, je les reconnais très bien, je ne me moquerai pas ». Et déjà, je me suis dit, mais en fait, les gens, ils se seraient peut-être moqués de lui, donc c'était à moi de le faire. Enfin, en tout cas, c'est ce que je me suis dit. Et ensuite, on passe à la partie finale. Vous qui avez peut-être déjà vu Pierre Canré, vous avez peut-être déjà fait faire ces exercices. L'exercice où il faut attraper des chevreaux. Alors, il y avait plusieurs exercices comme ça. Et il fallait être en duo. J'étais à côté de l'autiste, de Monsieur G, donc je me suis mis avec lui, j'allais l'appeler l'autiste, c'est pas sympa, Monsieur G. J'étais à côté de Monsieur G et on a eu plein de moments de prière où il fallait, c'est vraiment des exercices très profonds, où il faut vraiment se réconcilier avec soi-même, être avec le Père. Sauf que Monsieur G parle fort, il est très prenant et très envahissant, donc j'ai pas pu me concentrer sur un seul exercice. Et l'avant-dernier exercice, c'est qu'il fallait remettre nos dons au Seigneur. Et là, je me dis, mais c'est ça mon don. Enfin, je me dis, ça fait partie de mes dons. Je pense qu'on peut en avoir plusieurs. Bien sûr. Un homme avec 5 talents, enfin, il donne 5 talents, il donne à qui peut. Il donne 5 talents à celui qui est capable d'en gérer 5, n'est-ce pas? Donc voilà, et moi je me dis, attends, c'est ça mon don. C'est de pouvoir être. C'est de pouvoir parler aux autistes normalement. J'en veux pas de ton don, Seigneur. Je les aime pas, les autistes. Ils me mettent dans l'inconfort. Je les aime pas. Je veux pas. Non, pardon, Seigneur. Non, j'en veux, Seigneur. C'est juste que j'aime pas. C'est encore trop tôt pour moi. Et je me suis vraiment mis en colère comme un gamin. J'ai fait comme l'aîné, on va dire. Sauf que après, j'ai vu Monsieur G. Lui, il était vraiment avec l'esprit. Il était dedans, il était transformé. Cette semaine, il l'a transformé. Hein. C'était pas le même lundi et vendredi. Et je me suis dit, bah, c'est cool pour lui. Et moi. Je me suis dit, Seigneur, et moi. Et moi aussi, je veux vivre des choses. Moi aussi, je veux recevoir ton amour. Et ensuite, il y a eu le dernier exercice où on devait se laisser tomber. Quelqu'un nous rattrapait, hein, je vous rassure. On devait se laisser tomber en arrière. Et les gens se sont mis à rigoler, il y a eu une délivrance, il y a eu le Saint-Esprit s'est manifesté par des rires, par des cris, par du parler en langue. Et moi je dis, mais non, je me suis mis en colère contre Dieu, je ne peux pas faire cet exercice. Je vais voir le taf en plan, je dis, je me suis mis en colère, il ne va pas vouloir que... Dieu, il ne va pas vouloir. Alors le mec du staff, il me dit, oui, bah, après, tu sais, tu t'es mis en colère, tu crois que Dieu ne peut pas te pardonner. Enfin, il ne l'a pas dit comme ça, mais il m'a convaincu. Donc j'ai fait l'exercice. Je me suis laissé tomber, j'attends sur le sol allongé, les yeux fermés, j'entends les cris, les rires, j'entends les manifestations du Saint-Esprit, je fais, c'est à mon tour. Et j'étais dans l'attente de quelque chose. Et ça vient ou pas? Donc une demi-heure a passé, sur le sol froid, mes mains, je ne les sentais plus, j'avais plus de sang dans les mains, j'avais plus de sang dans le dos. Je sais, bon, bah, il serait peut-être temps que ça vienne. Je me sentais un peu comme si tout le monde s'était envolé vers le Seigneur et que moi j'étais resté sur terre. Je fais, et moi, et moi. Je me dis, mais ils sont tous possédés, et c'est moi qui suis le seul saint d'esprit. Je fais, et Dieu m'a abandonné, et je suis l'antichrist, c'est pour ça qu'il ne veut pas me donner. Voilà, des trucs comme ça, hein. Vous savez, c'est mes théories. Et après, Pierre dit, bon, bah, allez tous vers ceux qui n'ont pas encore reçu. Je fais, ah, bah, je ne suis pas le seul. Ok. Et là, je sens plein de monde qui est autour de moi. Je sens l'amour. Mais à ce moment-là, je me refusais encore de me dire que c'était peut-être l'amour du Saint-Esprit qui parlait à travers les autres. Mais j'ai senti de l'amour. Les gens ont prié autour de moi en rigolant et en criant. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Moi, j'ai rien reçu. Il y a Olivia qui est venue prier pour moi. Elle m'a dit « Lâche ». J'ai encore ce nœud dans mon cœur. Je suis encore en contrôle. je ne veux pas lâcher, pas encore. Enfin, si je veux, j'y arrive pas. Et après, le temps d'intercession s'est arrêté. On a mis fin au séminaire. J'avais froid, j'avais très froid. J'avais plus de sang dans les mains. Enfin bref. Et Pierre m'a dit après, tu sais, ils étaient tous vers toi, les gens. J'ai dû leur demander d'arrêter d'aller vers toi et d'aller vers les autres parce qu'ils étaient tous vers toi. J'ai dit, ah bon, c'est ça cet amour que j'ai ressenti. Je me suis dit, peut-être que je préfère me le dire, j'ai pas ressenti le Saint-Esprit de manière charismatique. Et sur le coup, je me suis dit, c'est parce que j'ai pas encore lâché. Mais c'était pas ça. En fait, on a chacun notre manière de ressentir le Saint-Esprit. Et je me suis dit, bon, ok. Moi, je ne le ressens pas comme ça. Je me suis dit, sur le coup, je l'ai peut-être ressenti via l'amour des autres. J'ai peut-être préféré me dire ça, mais au final, je me suis dit, et même si ce n'est pas ça, ben, c'est pas grave, le Saint-Esprit, il est avec moi. Et le séminaire s'est terminé comme ça. J'ai passé tout mon retour à avoir peur. Je me suis dit, ah mince, j'ai dit que le Saint-Esprit... J'ai dit qu'ils étaient tous possédés et que moi j'étais le seul Saint-Esprit, j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit. Et je suis impardonnable. Donc j'ai passé tout mon retour, mes 15 longues heures de trajet à cogiter. Je vous dis pas. Oui, parce que j'ai eu un train qui s'est annulé, j'ai dû monter sur Paris pour revenir à Lyon. Ça m'a pris 15 heures. Et du coup, j'ai appelé plein de gens, j'ai médité la parole. Je vous fais part d'un petit peu aussi ce que j'ai réfléchi à ce sujet-là. Ça ne fait pas vraiment partie du séminaire, mais je vous en fais part. Le blasphème du Saint-Esprit, si tu as peur de l'avoir commis, tu ne l'as pas commis. En tout cas, c'est un consensus assez clair dans la communauté. J'ai lu plein de trucs qui allaient dans ce sens. Et ça m'a convaincu. Je vous en parlerai peut-être un jour un peu plus précisément, parce que c'est un bête résumé de toutes mes réflexions. Mais il y a bien plus. Et je terminerai en disant... Ah non, je ne vais pas terminer. Mais bientôt, c'est promis. Je sais que vous avez tous très envie de ce pain et de ce vin. Quand je suis rentré de mes 15 heures de voyage, je me suis mis dans mon lit et j'ai pleuré pendant 20 minutes. Parce qu'en fait, j'ai eu tellement d'amour d'un coup. Et là, je me suis dit, attends, demain, c'est lundi, je retourne dans mon atelier avec ma machine... qui n'a pas d'émotion. Je retourne avec mes collègues qui sont loin dans l'atelier. Je suis un peu isolé dans mon atelier. Et ils sont loin, je suis tout seul, je suis avec ma machine qui ne parle pas. Et elle ne me donne pas d'amour, ma machine. Et là, je dois passer vraiment tout cet amour à ma machine et pas d'amour. Donc j'ai pleuré. Mais le Saint-Esprit est avec moi. Amen. Et pour conclure... L'amour du Père, vous l'avez. Amen. Et même quand vous n'étiez pas avec lui, vous l'aviez toujours. Je pense que Dieu m'a fait vivre une parabole vivante. Je vais parler un peu du travail de ma mère et des enfants qu'elle garde. Il y a une petite que j'aime beaucoup. À un moment, je viens la voir, elle me fait « Non, pas toi, Maxime !» Et elle s'en va. Ok, soit. Ça me rend un peu triste. Elle revient tête baissée, elle fait « Pardon, Maxime ». Et moi, à ce moment-là, j'étais trop content. J'avais que de la joie dans mon cœur. Et je me dis « Mais je t'en veux pas, je t'en ai jamais voulu ». Et là, ça m'a fait un tic. Pardon. Mais en fait, c'est comme ça que Dieu, il est. C'est l'amour du Père. Il nous en a jamais voulu. Il est simplement triste, il attend qu'on revienne. Donc voilà, c'est ça l'amour du Père. C'est un amour constant qui attend. Merci. Amen.